parole maintenant à Annie Fouquet pour un commentaire.
Dure tâche de découvrir en séance et de commenter ex abrupto, mais je ne suis pas la première, donc je vais tâcher de me plier à ce jeu. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressée dans cet ensemble d'exposés, dans leur diversité, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui les relie. C'est tous cette question de la frontière entre le domestique, la sphère domestique et la sphère plutôt sociale, avec dans les deux derniers exposés, une symétrie parfaite, je dirais, entre le travail, les compétences sociales, le réseau qui déborde sur le travail et qui permet d'ailleurs de l'améliorer. Et puis, à l'inverse, cette analyse extrêmement novatrice que nous a présentée Viviane sur l'hostilité du monde de l'entreprise à tout ce qui pourrait déborder, venir de l'intime, venir justement du domestique, du relationnel, sur le travail, avec des hypothèses de travail tout à fait nouvelles. Sur cette question de la frontière entre le travail travail invisible qui devient visible, il me semble qu'il y a quelque chose qui a peut-être un peu manqué dans ces exposés, c'est qu'on a parlé de cette frontière et de ce déplacement sans jamais prononcer le mot de emploi. Alors, il me semble que dans le premier exposé, ce qui se passait, comment le travail devient-il visible ? Il devient visible quand il devient un emploi, en fait. Et l'exemple de l'aide à domicile, financée ou pas, par l'aide personnalisée d'autonomie, le montre très bien. Les travaux plus anciens de Viviane sur le CAIR aussi, on avait traité. En fait, pour devenir... Le travail est invisible tant qu'il reste dans une sphère, dans cette sphère domestique, où tout s'échange contre tout, c'est le don contre don généralisé, comme disait Michel. Et pour devenir un emploi, en fait, il faut qu'il y ait trois conditions à ce travail. Il faut d'abord qu'il soit utile et échangeable. Il faut les deux choses en même temps. Mais échangeable ensuite contre individualisable, échangeable contre un salaire individuel. Il ne faut pas qu'il reste dans un collectif comme dans la famille agricole ou artisanale. Et puis, il est emploi. Quand il est devenu un emploi, il s'inscrit aussi. Il est échangé contre des protections dans la durée, dans le cadre des lois collectives, du contrat de travail qui s'est installé au fil du temps, au fil des heures. Et les historiens dans la salle connaissent cette histoire mieux que moi. Mais ces caractéristiques de l'emploi qui datent de bien avant le salariat, d'ailleurs, puisque les premiers emplois, c'est l'emploi, c'est la monarchie, c'est les emplois... je ne vais pas m'aventurer vers les historiens, je me retire. Non, non. Enfin, les premiers emplois, c'est quand même dans le cadre du colbertisme et des emplois financés par finances publiques, les manufactures royales et les mines, par exemple. Alors, le salariat s'est calé finalement sur cet emploi dans la norme industrielle, fondée aussi sur la rationalité, l'efficience, pour reprendre les analyses des mondes de Thévenot-Boltanski. Et cet emploi qui est calé sur la norme du salariat temps plein du monde industriel, ce qui est l'idéal type de l'emploi, on a du mal ensuite à le voir changer. Et je pense que l'exposé sur le travail créatif de Pierre-Louis Maguère a dû en parler de ce décalage aujourd'hui, où la norme industrielle, qui reste prégnante dans le droit du travail, disparaît en fait dans les formes que prend le travail. Michel Golac a notamment insisté sur le côté très, ou Viviane, je ne sais plus, très daté des normes sociales dans lesquelles s'inscrivent ces frontières. Viviane a pris l'exemple de l'agriculture. Le mari, l'agriculteur, dit à 7 heures, ma femme a fini de travailler, et la femme dit à 7 heures, je commence. Les statisticiens qui essayent de toujours tracer des frontières pour construire des catégories statistiques ont été amenés à faire bouger ces frontières. Et ce qui est très intéressant, c'était un travail d'Alice Barthez qui avait retracé, je dirais même traqué, les définitions successives, parfois très, très, très cachées dans les nomenclatures et les traités de codification qu'on leur donnait aux nomenclaturistes, enfin, aux petites mains qui codent les données des recensements, avant même l'informatique. Et la chute très forte du taux d'activité des femmes dans l'agriculture était en grande partie liée à des transformations de la définition de la codification de ce qu'était le travail en agriculture, calé sur la norme qui s'installait progressivement dans la société, notamment au recensement de 54, 50% de la population est agricole, et rurale, pardon, pas rurale, pas agricole, et l'activité la femme du paysan, eh bien, elle est paysanne, elle est agricultrice, tout pareil, on ne fait pas de différence. Sauf si elle a un travail salarié à côté, auquel cas on la sort de la population active agricole. Et puis, ça faisait qu'un taux d'activité des femmes, je n'ai pas les chiffres sur moi, mais très important. Donc, a priori, au recensement de 1946, toutes les femmes d'agriculteurs sont des actives agricoles. Ensuite, quand on passe au recensement de 1954, on commence à mettre des règles. Donc, si elles sont salariées ailleurs, on les retire. Et ensuite, au recensement de 1962, c'est draconien. Le plan Pisani est passé là, avec l'agriculture devient une agriculture qui s'industrialise, c'est la transformation radicale du monde paysan avec la politique agricole commune, et à ce moment-là, ne sera considérée comme active agricole uniquement les femmes d'agriculteurs qui travailleront 9 heures par jour, 300 jours par an. Toutes les autres ne sont plus des actives agricoles. C'est très violent, c'est une norme industrielle salariale violente qui s'impose à elles. Et à ce moment-là, la chute des taux d'activité dans l'agriculture est majeure, est magistrale. Alors, il y a eu beaucoup d'économistes qui ont commenté cette chute des taux d'activité par l'exode rural, certes, pour partie. Mais je crois qu'il y avait une grande partie qui était un artefact simplement de l'allant-de-soi social, que traduit cette codification. Et c'est quand même cette frontière qui bouge entre ce qui va être... du domestique, ce qui va être et donc de l'invisible et ce qui va être du visible qui passe à l'emploi, on la vit aujourd'hui avec toute cette augmentation des services à domicile qui prennent le pas sur des relations qui relevaient jusque-là de l'intime. Quand une personne qui aide ses parents âgés devient salariée de qui d'ailleurs ? De ses parents âgés, ça change la relation. On n'est plus dans le don contre don généralisé, on est dans un emploi. On est dans quelque chose qui change de statut. Et le droit, et là je me tourne vers Catherine Nomenès, le droit qui s'applique n'est plus le droit de la famille, mais devient le droit du travail. Ça change tout. Quand une femme mariée fait le ménage chez elle, je ne reprends pas ces exemples bien connus où les femmes inactives au foyer travaillaient plus que les femmes actives, ce que les enquêtes de l'INSEE ont montré successivement. Les droits acquis par l'épouse, entre guillemets, inactive, ce sont des droits sociaux provenant de ceux du mari, donc indirects, et pas des droits directs. Et la rémunération de ce travail n'est pas liée à la productivité du travail. C'est lié au niveau de vie que lui procure le mari, ce que montre bien d'ailleurs la législation en matière de divorce. Elle ne s'appuie pas sur le fait que l'épouse était une épouse modèle qui passait 40 heures par semaine à faire le ménage, mais pas du tout. Elle a droit au statut social que lui donnait son mari, etc. Donc il y a des différences, puis ces droits d'ailleurs perdurent, notamment sur la garde des enfants, au-delà de la rupture. La rupture, ce n'est pas le licenciement, c'est le divorce, etc. Donc on voit bien que passer d'un type de droit à un autre n'est pas anodin, et que le passage de la visibilité à l'invisibilité fait changer le statut juridique. Alors, un dernier mot avant d'ouvrir le débat sur la question de l'inaptitude au travail. J'étais très intéressée par ce sujet que je connais mal, et je m'interrogeais beaucoup sur la différence entre la question de l'inaptitude au travail dans le droit du travail avec celle du handicap, puisque beaucoup de lois, et alors cette fois-là du côté de l'emploi encore une fois, sont venues promouvoir le travail des handicapés, ce qui est très différent d'ailleurs d'autres pays, notamment en Europe, où une très grande différence dans les taux de chômage provient de systèmes sociaux, mais notamment d'une exclusion vers l'invalidité de nombreux chômeurs de longue durée, que ce soit en Angleterre ou aux Pays-Bas, par exemple. Et Catherine nous a bien montré que ce risque de l'invalidité qui va vers l'exclusion, qui est une facilité, je dirais, pour la politique du travail. En France, on est dans un cas très différent, et certaines études de l'OCDE qui comparaient l'ensemble des pays européens l'a bien montré. La France est relativement exemplaire dans sa volonté de procurer du travail aux handicapés, en les aidant de toutes sortes de façons, avec des obligations d'avoir 6% de travailleurs handicapés dans les grandes entreprises, avec des aides à l'emploi pour permettre aux handicapés d'être accompagnés dans leur travail pour accomplir un certain nombre de gestes qu'ils ne pourraient pas faire, et pour aussi améliorer et accompagner le poste de travail, l'aménager sur des fonds toujours de la GFIP en fonction de son handicap. Donc, le côté exclusion de l'invalidité, de l'inaptitude délivrée par le médecin du travail me paraît s'opposer, donc ça c'est dans le champ travail, me paraît s'opposer à une politique dans le champ de l'emploi qui est inverse. Et je me demande comment ces deux choses-là se marient, c'est des questions, je n'ai naturellement pas la réponse. Merci.